tú eres muy malo, muy, muy malo. La interpretación siempre negativa, siempre negativa.
Y digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy.
En face, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid.
Piqué, il faut qu'il aille avec Shakira, avec tout, la carrosserie, je sais pas, regardez.
Puede pasar de todo. Una bomba o dos bombas, no sé.
No, es que no te entiendas, es que hablas muy raro.
Ah.
Esa es la diferencia.
Yo creo que vocalizo muy bien, pero
sí,
bueno.
Sí, bueno, pero yo en este caso creo que no.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Liga Q, le podcast 100% foot espagnol, et ça y est, c'est la fin, la 20e trêve, et oui, il en reste une, est terminée. On retrouve notre Liga, notre belle Liga, notre Liga qui nous passionne et qui nous offre plus de 3 buts par match quand même depuis le début de la saison, c'est à noter, avec un week-end rempli de belles affiches. On aura l'Atlético de Madrid qui s'en va défier le Celta Vigo, le Barça qui accueille l'Athletic Club, pour lequel vous retrouverez aussi un podcast, mais le gros match, vraiment celui qui va nous tenir en haleine ce samedi et la plus belle affiche de cette journée, c'est le déplacement du Real Madrid du côté du Sanchez Pizjuan au Sevilla, avec, on aura en plus une question là-dessus, Sergio Ramos, voilà une affiche qui respire les classiques du football espagnol. Et pour nous parler du Sevilla, il était déjà intervenu dans nos podcasts. Guillaume, comment ça va?
Bonsoir à tous. On va dire qu'on va aller bien. Ça va aller. Donc voilà, prêt pour le match pour demain.
Voilà, exactement. Et puis pour nous parler du Real Madrid, un habitué, vraiment des amis de la page, hein, Los Madridistas, et JB. JB, comment ça va?
Écoutez, ça va très bien, j'espère que pour vous aussi. Comme d'habitude, un grand merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de parler du Real Madrid. En plus, pour des retrouver comme ça, Sergio Ramos, ça fait forcément plaisir.
Et voilà, on pouvait pas faire sans vous, les gars. Mais en tout cas, toujours un plaisir de t'avoir, de vous avoir ici. Et encore une fois, pour tous ceux qui nous suivent, qui apprécient l'actualité du Real Madrid ou pas d'ailleurs, mais qui veulent s'informer sur le Real Madrid, n'hésitez pas, vraiment, Los Madridistas, c'est bien évidemment la page à suivre. Et puis, bon, un podcast Ligue Actu, je sais, je le dis à chaque fois, vous allez croire que c'est un jukebox, mais un podcast Ligue Actu sans le réfé, ça ne serait pas un podcast Ligue Actu. Ruben, comment ça va?
Écoute, ça va nickel, très content d'être ici pour le retour de la Liga, pour un très bon match, et puis effectivement il y a une belle équipe aussi pour parler de cette rencontre, donc tout va bien.
Eh bien voilà, je pense qu'on peut démarrer dans les meilleures conditions. Alors justement, tu nous parlais, toi, supporter de l'Athletic, le club basque, eh bien il y a eu un basque qui malheureusement s'est fait limoger. C'est Mendilibar, la merveilleuse histoire de Mendilibar qui prend la Ligue Europa aux dépens de José Mourinho, de la Juve d'Allegri, de Manchester United, de Ten Hag. Voilà, il n'a pas passé le cap de la deuxième trêve, un Sevilla qui est en grosse difficulté au niveau du club. Est-ce que son départ était inévitable? Et qu'est-ce que tu penses justement du choix assez surprenant de Diego Alonso pour venir le remplacer?
Eh bien, écoutez, déjà pour Mendilibar, bon, on avait déjà parlé malheureusement sur le podcast du match contre l'Atlético de Madrid qui avait dû être annulé pour la cause d'intempéries. Mais on savait que ça allait être compliqué pour lui de rester longtemps à la tête du club, hein, parce que malheureusement, les résultats, on va dire, après ce succès en Europa League, inespéré encore une fois, je pense quand même qu'on a pris notre pied pendant 2 mois sur cette compétition-là qui nous a sauvé la saison, la saison 2022-2023. Mais en termes de résultats en Liga, on était déjà en difficulté, même si on ne craignait plus la descente puisqu'ils nous avaient maintenus. Et le début de saison, malheureusement, a confirmé en fait les mauvais résultats de la fin de saison. Est-ce que Mendilibar, malheureusement, le niveau était peut-être trop élevé par rapport à son côté tactique? On va dire que c'est un entraîneur qui a forcément un très bon gars. D'ailleurs, je pense que beaucoup de supporters, non pas qu'ils souhaitaient son départ parce que c'est un mauvais entraîneur, au contraire, ils voulaient peut-être son départ pour pas avoir de l'amertume en cas de mauvais résultats qui continuaient. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de Sévillans l'ont remercié très fortement et agréablement lorsqu'on a annoncé son départ, évidemment. Donc je pense que là-dessus, Tout le monde considère qu'il fait partie maintenant de l'histoire du Sevilla Football Club. Hein. Il a ramené un titre. Je pense que même lui, je pense que c'était inespéré pour lui en tant qu'entraîneur d'obtenir un tel titre. Je pense que l'histoire était quand même assez belle par rapport à, malheureusement, au niveau peut-être, non pas de l'entraîneur, mais au niveau du club, c'était compliqué. Je pense que le départ était inévitable. Quant au nouvel entraîneur, Diego Alonso, je pense que très peu de personnes le connaissent en Europe, et c'est évidemment mon cas. La seule référence que j'avais avant d'entendre son nom et de faire de petites recherches quand même sur son passé, son CV, c'est une Coupe du Monde au Qatar ratée avec l'Uruguay. À partir de là, c'était assez compliqué de savoir ce qu'a fait Alonso. Donc, ce Diego Alonso, uruguayen, qui est passé en tant que joueur un petit peu en Liga, hein, par Valence, par l'Atlético de Madrid, par Malaga également. Mais sa carrière de joueur a été plus finalement dans les championnats, locaux ou sud-américains, on va dire, latino-américains. Il est passé par le Mexique. Et sa carrière d'entraîneur a commencé au Paraguay, en Uruguay. Et ses faits d'armes sont au Mexique, où il a pu être champion avec Pachuca en 2016. En suivant, il a gagné, on va dire, la Ligue des Champions, si on peut dire, de la CONCACAF, donc avec le même club de Pachuca. Et il a renouvelé, on va dire, cette performance avec le Monterrey CF en 2019, si je ne me trompe pas, si je n'ai pas oublié. Hormis ça, malheureusement, je ne suis pas, et je pense très peu suivre quand même autant le championnat mexicain. Donc, pas grand-chose à dire. Côté tactique, c'est assez compliqué, donc on verra. Par contre, c'est un choix de Victor Horta, ça, clairement. Il a même poussé face à Castro et, on va dire, Del Nino Junior. Pour prendre cet entraîneur, alors qu'on annonçait peut-être un Marcelino, un Gallardo, même si Gallardo c'est beaucoup plus compliqué. J'entendais même peut-être un Raoul. Finalement, c'est lui qui a décidé et je trouve que c'est plutôt bien, même si le fait que le signer jusqu'à la fin de la saison, c'est pas un gage de confiance absolue. C'est surtout trouver quelqu'un qui est capable du nouvel objectif et qui est le même que l'année dernière, à savoir de terminer la saison en Liga et pas être dans les places pour descendre. Voilà.
Ouais, tout à fait. Je vais te passer la parole juste après ça, Réfé, là-dessus. Mais moi, je comprends aussi le fait de signer un contrat court. Ça s'explique par la gestion catastrophique des entraîneurs sur les dernières années, je pense, du Sevilla, avec des fortes indemnités de licenciement à verser. C'est ce qui a un peu aussi plombé le club. On peut de là aussi comprendre cette frilosité. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un choix assez surprenant, mais intéressant. Ça a le mérite au moins d'aller essayer de nouvelles choses plutôt que de reprendre un peu des coachs vus et revus, même si ça aurait été intéressant, pourquoi pas de voir un Raoul. JB, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais c'est vrai que Marca faisait la une ce matin avec Fede Valverde, et Diego Alonso, c'est l'entraîneur qui a eu une grosse discussion avec Fede Valverde, qui l'a vraiment aidé à passer un cap en 2020, 2021, voilà. Donc c'est un entraîneur qui a sans doute de grosses qualités. Toi, Ruben, qu'est-ce que tu penses justement de ce choix?
Je vais faire rapide parce qu'effectivement Guillaume a dit, je pense, l'essentiel. Il a listé un peu ses expériences. C'est vrai que je le connaissais pas non plus énormément avant qu'il soit nommé à Séville. Je pense qu'au point où on est le club, de toute façon, tenter quelque chose de nouveau était certes un peu risqué, mais je pense que c'était peut-être aussi une des choses à faire. Maintenant, c'est vrai que voilà, pour Mendy Libar, pour en dire deux mots, c'est vrai qu'on sentait bien que dans tous les cas, ça allait être un peu juste, mais même si il n'a jamais été habitué, on l'a dit, à côté des clubs avec un aussi grand, on va dire des aussi grandes attentes, il y a quand même voilà aussi, je pense, une question d'effectif qu'on avait déjà évoqué à plusieurs reprises, évidemment. Je pense est-ce qu'il aurait vraiment pu faire beaucoup mieux, ça c'est la question. Après, en tout cas, voilà, il y a quand même eu, je trouve, beaucoup voilà, de reconnaissance de la part des joueurs et des supporters, peut-être un peu moins du club le concernant, mais c'est quelqu'un qui a quand même gagné une Europa League et qui a un peu, on va dire, évité le pire. Après, il a fait, je crois, ce qu'il a pu, mais c'était un peu compliqué. Et puis après, voilà, concernant Diego Alonso, bah, comme je le disais, je ne le connais pas plus que ça. On va suivre ce qu'il va proposer dès. Alors, c'est vrai que ce sera un premier match assez relevé ce samedi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que va y avoir, voilà, plus ou moins une nécessité quand même d'avoir des résultats sans trop tarder parce que la situation est assez compliquée. Malheureusement, voilà, j'ai envie de dire, elle arrive aussi dans un contexte où bah, les entraîneurs ont beaucoup été accusés, enfin pas forcément accusés, mais en tout cas responsabilisés du côté de Séville ces derniers mois, ces dernières années. Tu parlais des indemnités de transfert qui ont été en plus souvent assez, des indemnités de départ qui ont été souvent assez lourdes. Donc voilà, je pense qu'il fera du mieux aussi qu'il peut, mais c'est vrai qu'il arrive dans un contexte assez difficile. Et puis il y a eu cette discussion comme qui était assez, enfin qui avait été captée, je crois que c'était par les images du Chiringuito, les caméras de Chiringuito qui voilà, pendant l'entraînement où on voyait, je crois que c'était Danilo Junior avec Victor Orta et puis Pepe Castro, du coup le président, qui se rendait compte que ils n'avaient pas forcément fait une bêtise, mais qu'ils avaient nommé un entraîneur sans s'assurer du fait que, enfin, sans s'assurer des profils que lui voulait en tant qu'entraîneur à Séville. Donc voilà, on voit bien que rien qu'avec ce méli-mélo, un peu, si je peux résumer ça comme ça, qu'on voit depuis plusieurs saisons et en particulier depuis plusieurs mois, on voit bien que l'entraîneur est pour moi pas le premier responsable et que voilà, la direction y est pour beaucoup en tout cas. Donc voilà, on lui souhaitera bonne chance sur ses débuts avec Séville, mais c'est vrai qu'il arrive dans un contexte qui est difficile, il faut l'admettre.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Ben justement, JB, si tu veux aussi nous reparler d'un peu de Diego Alonso, s'il y a une anecdote ou quoi, mais on parle de coach et ben même question un peu pour toi avec Ancelotti, dont le futur est quand même assez incertain. Hein, certains l'annoncent du côté du Brésil. Un doyen d'université à Parme l'a d'ailleurs a dit que c'était fait. Bon, d'autres tempèrent un peu plus. Lui, il affiche quand même un bilan quasi parfait depuis le début de la saison. Il y a juste une défaite lors du derby du côté du Metropolitano. Est-ce qu'au final, Carlo Ancelotti, malgré certaines critiques, malgré certaines réserves, c'est pas lui l'entraîneur parfait pour cette transition d'effectifs qui s'opère au Real Madrid depuis maintenant plus de 2 saisons?
Honnêtement, le cas Carlo Ancelotti, on sait que c'est un des cas les plus épineux sur le Real Madrid, et ça depuis au moins 2 saisons. Parce que même la saison où le Real Madrid est champion d'Europe, on se souvient qu'il y avait déjà des questions sur l'avenir d'Ancelotti. Alors oui, tu as très bien dit, le Real cette saison est à 11 matchs, toutes compétitions confondues, 10 victoires et une et unique petite défaite contre l'Atlético. Mais malgré ça, du côté du Real Madrid, on a toujours un problème assez flagrant, c'est qu'au niveau du jeu, on a vite tendance à s'ennuyer. Alors oui, cette saison, on a un effectif qui est, pour peu dire, incomplet. On n'a pas de réel numéro 9 à part Joselu. Offensivement, on manque vraiment d'alternatives à part quand Vinicius est présent. Quand Vinicius n'est pas là, on l'a vite vu. C'est très problématique parce que même si Bellingham marque ses buts, bon, bah, c'est un milieu de terrain, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment de quoi. Enfin, s'il pourra tenir la saison, ce qui est vraiment très peu probable. En défense, on a eu beaucoup de blessures avec Militao, avec Courtois dans les buts. Donc, avec pareil, à droite, Carvajal, on sait qu'il peut avoir tendance à se blesser. Donc, vraiment, on a un effectif du Real qui est assez peu stable et qui peut poser question. Et pourtant, Ancelotti, malgré cet effectif-là, arrive à avoir de très bons résultats depuis le début de saison, ce qui n'était vraiment pas donné, ce qui n'était vraiment pas espéré au vu de l'effectif au début de saison. Maintenant, honnêtement, si je pouvais avoir le choix en fin de saison, je dirais merci à Carlo Ancelotti pour tout ce qu'il a fait. Évidemment, c'est une grande légende du Real Madrid et un des plus grands coachs de l'histoire, même si ce n'est le meilleur pour certains, ça dépend des points de vue. Bon, c'est pas mon cas, mais voilà. On est sur vraiment un coach qui a tout gagné à plusieurs reprises et il est évident qu'il est dans l'histoire du Real Madrid. Maintenant, il faut quand même souligner plusieurs problèmes avec Carlo. C'est que d'un premier point, il ne fait pas jouer les jeunes. On a plein de jeunes et le dernier exemple, c'est Sergio Arribas qui est parti à Almeria cet été, alors que c'est un des prodiges du Castilla depuis 2, 3, 4 ans. On connaît Sergio Arribas comme un futur prospect du côté du Real, et pourtant il n'arrive pas à monter en équipe première. Pareil, on a plein de jeunes qui pourtant jouaient sous Zidane. On peut penser à Miguel, on peut penser à Marvin, et pourtant ces joueurs-là ne sont pas retrouvés du côté d'Ancelotti. Donc est-ce que c'est les joueurs qui sont mauvais ou enfin qui n'ont pas le niveau tout simplement du Real Madrid ou est-ce que c'est Carlo qui n'a pas envie de mettre du renouveau? C'est une question qu'on peut se poser. De plus, une vraie philosophie de jeu n'est pas présente. Enfin, on n'a pas de vraie philosophie de jeu au Real, on a l'impression que c'est un petit peu du Donna Bellingham, Donna Vinicius, Donna Rodrigo, ils feront un exploit, ils créeront quelque chose qui pourra débloquer le match. Mais quand tu regardes de près les systèmes de jeu du Real, on n'a pas une vraie identité de jeu. Et ça, c'est quelque chose qui peut au plus haut niveau manquer. Alors oui, on a gagné la Ligue des Champions il y a 2 ans, vous le savez très bien. Maintenant, si on regarde de près là aussi, c'est plus dans l'irrationnel que dans le réel que le Real a gagné cette Ligue des Champions. Donc moi, si je devais choisir, oui, je dirais Carlo Ancelotti, merci pour tout. Mais il est peut-être temps de trouver un nouvel entraîneur.
Ouais, tout à fait. Ben écoute, c'est un avis assez tranché, mais qui a du sens en tout cas. Et puis oui, on se rappelle bien évidemment de cette Ligue des Champions et des larmes de joie d'un côté et de rage de certains côtés. Hein. Je pense que tout le monde sait que je suis bien placé pour ça. Mais en tout cas, non. Ben, on va continuer le fil de ce podcast. À moins que j'y vais la traditionnelle petite pique, ça nous évitera sur la fin.
Non, tu sais très bien que c'est vers la fin, la traditionnelle pique. Et voilà.
Alors, voilà. Il se prépare. Voilà. En plus, un classico qui arrive, il est temps de rechausser les crampons. Mais en tout cas, bon, allez, une nouvelle question pour toi, Guillaume, justement, ben, c'est l'attraction réellement de ce match. J'en parlais en ouverture de podcast, c'est Sergio Ramos. Sergio Ramos qui, pendant longtemps, a déchaîné la colère et la rancœur des fans du côté de Nervión et qui, là, est revenu. Qui a fait un petit cadeau au Barça aussi, mine de rien, il y a 2 semaines, avec ce but contre son camp qui a offert les 3 points aux hommes de Xavi. Est-ce que, ben, le concernant, ça y est, la colère est passée, et il se fait pardonner. Et est-ce que tu peux revenir tout simplement sur son début de saison au Sevilla?
Alors, en ce qui concerne l'aspect, on va dire, affectif concernant Sergio Ramos, bon, à l'exception de, on va dire, de ce qu'on va dire les plus ultras, à savoir les Biris Norte, voilà. C'est évidemment, c'est surtout avec eux d'ailleurs, où Sergio Ramos pendant des années a eu beaucoup de difficultés, où ouais, qui peut l'œuf et la poule, savoir qui a commencé à avoir de la rancœur contre l'autre, puisque je voyais souvent Ramos en rajouter à chaque fois lors de ses matchs entre Séville et Real Madrid. Donc pour un dit sévilliste, c'est assez difficile de voir ça, cette rage, cette envie en fait de montrer encore plus contre son club dit de cœur, parce que c'est comme ça qu'il se présentait. Donc pendant des années, évidemment, j'étais un peu du côté où je pouvais pas me le voir, j'étais pas favorable forcément à ce qu'il revienne. Le côté panique signature, parce qu'il manquait des défenseurs centraux, va dire valides, et peut-être aussi au niveau compétitif, a fait qu'on a finalement, ils ont cédé et ont signé Sergio Ramos après la fin du mercato. Il a fait un peu son mea culpa via une vidéo, via ses commentaires. Moi, j'enterre totalement l'âge de guerre puisque voilà, il est à Séville. Maintenant, comme il disait, on est tous dans le même bateau maintenant. Hein. Le but maintenant, c'est de performer avec Séville, de remonter parce qu'il a vu aussi que le début était compliqué. Donc moi, je vais voir que le côté sur le terrain et ce qu'il amène et qu'il amène sur le terrain et on va dire peut-être dans le vestiaire. Alors dans le vestiaire, je ne doute pas que c'est un meneur d'hommes. Il a fait pendant 15 ans ou 17 ans de sa carrière au Real Madrid. Donc je pense que ce n'est pas un problème. En revanche, niveau performance, ben, moi j'attends juste voir s'il est au niveau. Et le début est moyen. Alors évidemment, comme tu l'as signalé, Sacha, il a donné un petit cadeau sur un match qui semblait mal parti quand même pour Barcelone finalement. Par rapport au niveau de Séville, je trouvais que le match était plutôt correct de la part du Sevilla. Et malheureusement, oui, effectivement, il a un petit peu craqué. Bon, ça peut arriver. Malheureusement, il a fait également un peu la même erreur contre Eindhoven en Ligue des Champions suivant. Donc, ça faisait 2 matchs de suite. C'est, voilà. Donc, à côté de ça, je trouve quand même qu'il y a un côté à vouloir rassurer un peu la défense à côté. Le gardien qui n'est pas le meilleur des gardiens, Nina Eiland. Je pense que certains ont vu peut-être le match de l'Espagne contre Norvège. c'est pas un gardien sûr, mais c'est toujours mieux que Dmitrovic. Donc, à voir, c'est toujours à voir. Le début de saison, on va dire, est correct, sans plus. Et on va dire avec une note négative, vu que les deux derniers matchs effectués, malheureusement, il y a eu quand même des erreurs individuelles. Donc à voir pour la suite. J'espère qu'il sera dans le coup. Hein. Moi, je l'ai dit maintenant, c'est complètement passé, le côté un peu vengeance et tout ça. Maintenant, il est dans le club. Et d'ailleurs, même les joueurs que je peux critiquer, quand ils sont sur le terrain, c'est à fond. Il faut absolument les supporter au maximum parce que voilà, on est tous en difficulté. Donc, il n'y a pas de raison de siffler ou vraiment de conspuer, d'insulter nos propres joueurs. Hein. Ils n'ont pas besoin de ça, malheureusement. Je pense que certains le savent qu'ils sont en difficulté ou peut-être qu'ils n'ont pas le niveau. Mais ça ne sert à rien d'en rajouter. Voilà.
Sacha, si je peux rajouter quelque chose rapidement.
Et justement, j'avais pensé là-dessus.
Eh ben, écoute, juste une seconde. Est-ce que ce serait possible d'arrêter de mentionner ce but contre son camp de Sergio Ramos pour des raisons assez évidentes? Merci.
Tu sais que mine de rien, on est quand même dans un podcast avec des gens qui rigolent un petit peu du karma, qui le subissent aussi, bien évidemment.
Souvent.
Ce serait quand même très très drôle que Sergio Ramos donne 3 points au Barça et qu'il en prenne 3 au Real Madrid. Juste ça, ce serait typiquement un scénario digne de Ligue Actu, voilà, et des chats noirs de ce podcast, de cette énergie un peu de ce destin qui joue des tours. Mais justement, toi, JB, j'avais une question sur Dani Carvajal en suivant. Sergio Ramos, qu'est-ce que ça te fait quand même de le retrouver comme ça? Alors, on n'est pas encore au Bernabéu. Là, je pense qu'il y aura vraiment quelque chose d'émotionnel, mais qu'est-ce que ça fait de retrouver son ancien capitaine?
Bah, c'est une émotion très, très particulière. Moi, je sais que... Bon, je ne suis pas non plus le plus âgé des supporters madrilènes, mais je pense que le départ de Ramos, c'est le départ qui m'a le plus fait mal en tant que supporter du Real Madrid. Et vraiment, je m'en souviens très bien, c'était quelque chose qui m'avait fait beaucoup de mal. Et le Real n'a jamais joué contre Ramos, du coup, depuis son départ. Et c'est sûr que ça va être quelque chose d'assez particulier. Pour le Real Madrid, pas spécialement, je pense, parce que bon, la plupart des joueurs sont assez jeunes. Ils n'ont pas tous connu Ramos. Je pense à Tchouaméni, Camavinga, etc. Alors oui, beaucoup vont le connaître, etc. Mais je pense pas que ce soit très particulier. Je pense que le moment particulier sera vraiment au Bernabéu, comme tu as pu le dire. Mais je pense ouais. Vraiment le truc qui va m'intéresser, moi, c'est déjà l'accueil des fans, des quelques fans qu'il y aura à Centre Espiruan ce week-end. Mais surtout lui, comment il va ressentir ce fait de jouer contre le club où il a passé plus de 15 ans? Comment il va ressentir ce fait de jouer contre le club où il a tout gagné, où il a tout fait, où il a été meilleur défenseur du monde, peut-être l'un des meilleurs de l'histoire? Bon, ça c'est pareil, c'est comme pour le débat d'Ancelotti. C'est des choses qui appartiennent à tout le monde. Mais vraiment, on est sur un joueur qui a tout fait. C'est vraiment une maison pour lui, Madrid. Et ça va être intéressant de voir comment, justement, il va pouvoir gérer ce fait de jouer contre son ancien club, contre son ancienne maison. Mais comme tu l'as très bien dit, je pense vraiment que le moment émotionnel fois 1000, ce sera vraiment quand il sera au Santiago Bernabéu en 2024 pour aller défier le Real dans sa maison, enfin dans son monde.
C'est lui qui avait fait le dernier match aussi au Bernabéu avant les travaux. C'était une victoire face au Barça dans un classico. Et donc là, il y reviendrait une fois le Bernabéu fini avec le maillot du Sevilla. C'est vrai que là aussi, un petit clin d'œil. Bon, on se rappelle qu'il y avait eu le PSG Real Madrid. Bon, il était absent. Il me semble qu'il était blessé à ce moment-là. Ouais, voilà, il vivait une saison assez, assez compliquée. Je reste avec toi justement parce que tu parlais un peu des jeunes du Real Madrid, mais il y a aussi des joueurs un peu vieux. Alors j'avais, un peu vieux, sans que ce soit péjoratif bien sûr, j'avais une question sur Dani Carvajal qui a remporté chacun des matchs qu'il a fait depuis le début de la saison, qui retrouve un niveau de forme énorme. Et puis on se parlait au moment de préparer ce podcast et tu as voulu aussi mettre en avant Joselu et je trouve que c'est très juste. Donc voilà, pourquoi pas nous présenter un peu ces deux joueurs qui sont en plus liés. Hein, on sait qu'ils ont des liens, notamment grâce à leurs femmes respectives. Et voilà, en tout cas, est-ce que tu peux nous faire un petit focus sur ces deux joueurs et donc Joselu aussi qui sera aux prises avec Sergio Ramos, vraisemblablement.
C'est sûr, ça va être un duel assez sympa à suivre. Alors je vais commencer par Carvajal, parce que c'était la question originelle. Alors oui, Dani Carvajal fait un début de saison monumental. Alors, c'est quelque chose que j'aurais pas imaginé dire il y a 6 mois, parce qu'on sait très bien que depuis sa blessure en finale de Ligue des Champions en 2018 contre Liverpool, et sa blessure aux ischios, si je me souviens bien, Dani Carvajal a beaucoup de problèmes physiques, se blesse très régulièrement, et dans les matchs à haute intensité, a du mal à pouvoir maintenir son niveau de jeu durant 90 minutes entières. Alors, est-ce que c'est dû à sa préparation physique ou est-ce que c'est dû à tout simplement le plan mental qui est peut-être modifié? Je ne sais pas encore, on n'a pas trop d'infos par rapport à ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dani Carvajal est peut-être, en dehors de Jude Bellingham, le meilleur joueur du Real Madrid depuis le début de saison, qu'il a une attraction, enfin une présence qui est assez démentielle, que ce soit sur le plan offensif, sur le plan défensif. Défensivement, il fait beaucoup moins de fautes, qui était peut-être la chose qui embêtait le plus les supporters du Real, c'est qu'il faisait beaucoup de fautes, notamment dans la surface, il concédait beaucoup de pénalties. Là, c'est plus du tout le cas depuis le début de saison, beaucoup moins de fautes. Et puis surtout sur le plan offensif, on a retrouvé des vraies montées de la part de Carvajal avec des centres vraiment tranchants, des bonnes prises de décision, des bons dédoublements sur le côté droit. Et c'est quelque chose qui fait vraiment beaucoup de bien au Real. Et quand on sait qu'on a un joueur justement comme Joselu qui a rejoint le club, qui dans le domaine aérien est très important et très intéressant, forcément, si on fait l'addition, c'est que ça donne quelque chose de très bien pour le Real. Maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va durer? Parce que c'est vrai que des retours de Carvajal, on en a eu. Il y a eu des petites périodes pendant de 6-7 matchs durant ces dernières années où Carvajal revenait à un niveau vraiment intéressant. Et au fil du temps, ça redescendait un petit peu. Moi, je pense que Carvajal est vraiment redevenu sur une pente ascendante et qu'il est capable de maintenir ce niveau durant toute la saison. Maintenant, il faudra voir si c'est quelque chose qui sera vraiment important dans la réussite du Real cette saison. Parce que si on a un Carvajal qui est à ce niveau-là, c'est pas quelque chose qui était prévu et qui peut forcément modifier l'équation. Par rapport à Joselu, en début de saison, tout le monde riait du recrutement de Joselu, qu'il était le seul neuf du Real Madrid cette saison. Mais il est clair que pour l'instant, s'il y a une bonne surprise du côté du Real, c'est bien le retour de Joselu. Il est à 12 matchs joués, donc 6 en tant que titulaire. C'est 6 buts et 2 passes décisives. Donc c'est vraiment des stats qui sont vraiment très intéressantes pour un joueur de ce calibre-là et qui arrive au Real Madrid normalement en tant que super sub, enfin au mieux en tant que remplaçant. Et puis comme Karim Benzema n'a pas été suppléé, comme il n'y a pas de réel numéro 9 dans cette équipe-là, Joselu gratte beaucoup plus de temps de jeu. Et si c'est pas vraiment une surprise pour ceux qui connaissent un petit peu Joselu depuis son passage à l'Espagnol, et ben en tout cas maintenant c'est une certitude. Joselu fait le travail pour l'instant dans les matchs de Liga, je précise, parce que moi j'avais aucun doute là-dessus, je savais très bien qu'en Liga, Joselu ferait le travail contre les équipes entre guillemets dites moins fortes que le Real Madrid. Donc c'est vraiment cool d'avoir un numéro 9 capable de faire le travail à ce point-là. Et puis il est déjà à 5 buts en Liga, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Donc s'il peut aller réussir à tâtonner les 10 buts, voire les 15 buts, on aura vraiment une nouvelle arme pour le Real. Surtout que, comme j'ai pu le dire un peu plus tôt, on a des latéraux qui centrent beaucoup plus depuis le début de saison avec des Fran Garcia, avec un Dani Carvajal. Donc en effet, avoir un joueur comme Joselu, c'est quelque chose qui peut vraiment être très intéressant pour le Real. Et je tenais justement à préciser ça là, parce que Joselu a beaucoup été moqué. Et c'était un petit peu ingrat vis-à-vis de cette situation, parce qu'il venait clairement pas pour être titulaire. Et c'est pas sa faute s'il est amené à jouer autant. Et justement, pour l'instant, il remplit plus que très bien sa mission, puisqu'il marque ses buts, il participe au jeu, et puis il est très très bien intégré au groupe Real Madrid.
Ouais, tout à fait. Ben, écoute, je vais rester avec toi pour maintenant parler un peu plus du match en lui-même, avec le traditionnel point sur les absents et les retours. Quel effectif va avoir Carlo Ancelotti à disposition?
Alors, le Real Madrid affiche un groupe presque complet, entre guillemets. On a toujours les absences de Thibaut Courtois et de Eder Militao qui, on le rappelle, se sont fait les ligaments croisés en tout début de saison. Et qui est une chose très préjudiciable pour le Real Madrid, étant donné l'importance de ces deux joueurs-là. Maintenant, Dani Ceballos s'est blessé musculairement à l'entraînement hier, à savoir jeudi 19 octobre. Il sera donc absent pour ce déplacement du côté du Sanchez-Pizjuan. Et enfin, la dernière absence, c'est celle d'Arda Güler, le prodige turc qui, selon toute vraisemblance, toute. Enfin, selon toute pardon, modification, est bien de retour de blessure. Cependant, le Real a peur de précipiter son retour et décide de ne pas prendre le moindre risque avec Arda Güler. Décide de prendre son temps et donc de le laisser un petit peu de côté pour ce match-là. Cependant, si on suit aux informations de AS et de Marca, pas d'inquiétude pour Arda Güler. Il n'est pas blessé, c'est juste du repos pour le prodige turc. Voilà.
Oui, tout à fait. Ben, c'est ce qu'on voit aussi fleurir un peu partout. Il aurait un déficit de préparation par rapport aux autres, ou du moins de mise à niveau de la compétitivité. C'est sûr que quand la saison a commencé depuis 2 mois et qu'il a passé 2 mois de convalescence, il ne peut pas directement intégrer la dynamique de l'équipe. Toi, Guillaume, justement, du côté du CVA, quelles sont les forces en
Non,
présence?
Pacha, je redis quelque chose rapidement, excuse-moi, je te coupe. Par rapport à Arda Güler, le plan de Carlo Ancelotti, il serait de lui refaire une préparation estivale, tu l'as très bien dit. Il a manqué tout le début de saison, il n'a pas fait la moindre minute sous le maillot du Real Madrid. Et ce, même si il a été recruté durant le mercato, il a raté toute la préparation estivale pour ses problèmes de blessure. Donc le plan d'Ancelotti, il est simple, c'est de lui refaire une préparation physique et il est fort probable qu'on ne le verra pas contre le Barça.
Ok. Bah, écoute, on verra ça en tout cas. Toi, Guillaume, justement, quelles sont les forces en présence du côté du Sevilla?
Ah bah alors du coup, on a peu de blessés puisqu'il y a certes il y a Eric Lamela et excusez-moi, il m'en manque un. C'était qui était blessé encore? Là, il m'a pris de court parce que je pensais à l'équipe probable parce que on a quand même le retour inespéré de Marcao après des
Okay.
semaines et des semaines
Le fameux.
d'absence. Bon, ça durera peut-être une semaine ou deux avant qu'il se reblesse. Mais... Et Mariano, voilà, c'est ça que je cherchais, l'autre blessé et l'autre indisponible. Mais bon, Mariano, disponible, pas disponible, je pense que JB peut être d'accord, ça ne changera pas grand-chose. Et là aussi, ça
Ah
fait
bah
partie des signatures quand même assez étonnantes quand même. Bon,
Guillaume.
voilà, entre le hors de forme depuis 5 ans et autres, bon, ça me paraît un
Bon,
peu
5 ans,
étonnant,
c'est minimum.
mais
Hein.
c'est comme ça.
Par rapport à Mariano,
Hein?
le Real a une tendance qui est
Oui.
fâcheuse et qui est terrible, c'est de prendre des buts par ses anciens joueurs. On l'a vu au début de saison.
Bon, ben là, il est
Donc,
blessé. Là, il est blessé, du coup, il n'y a
ça
pas de
fait
souffle, il n'y
très
a pas ce
fondamental
problème-là.
pour moi.
C'est pour
Je
Ramos.
suis persuadé. Je suis persuadé que si Mariano Diaz avait joué ce match contre le Real Madrid, qu'il nous aurait
Ah, il
causé
serait
des
capable de
problèmes.
marquer.
Ah bah écoute, je pense qu'il aurait mis un
Peut-être
but
pas.
dans la saison.
Ça peut
Il
arriver,
aurait
ça
mis
peut
un but
arriver.
dans la saison, il aurait
On
mis
a
du contre
déjà
Real.
eu Rafa Mir qui a marqué contre Real Madrid. Hein.
Ah.
Donc il peut tout se passer. Cependant, ouais, en dehors de ces deux, en dehors de ces deux, on a vraiment l'effectif qui, du coup, au complet, ce qui est quand même rare. Et en ce qui concerne la compo, ben, le problème, c'est que comme c'est un nouvel entraîneur, évidemment, et Diego Alonso, j'imagine qu'il va peut-être pas être dans la même idée que Mendilibar. Alors, on annonce un 4-3-3, selon Marca. Vu les forces en présence et autres, autant les trois de devant, je suis d'accord, parce qu'il va forcément mettre Enesiri, Luke Bakayoko, qui est là, par contre. Horta est vraiment une grosse découverte et vraiment une grosse réussite en début de saison. Vraiment, il amène tout ce qu'il n'y avait pas à Séville, hein, de la percussion, de l'envie, voilà, de création d'occasion, des créations d'occasion, clairement. Donc là, c'est plutôt une bonne réussite. Et donc, Ocampos. Le problème un 3 milieu avait toujours les vétérans, Rakitic, Fernando. Et donc Sow, qui lui aussi, comme Luke Bakayoko, je trouve, est en train de s'installer au milieu terrain. Ça, c'est les bons points, malgré notre saison de nouveau compliquée. Je trouve que les recrues rentrent bien. Et ça va être le cas aussi en défense, en ce qui concerne le petit Espagnol à gauche, Pedrosa, qui, alors, il est plus ou moins en balance avec, évidemment, Acuña. Acuña, lui aussi, a des sujets aux blessures et autres, donc c'est pas forcément sûr qu'il soit titulaire. Puis la défense centrale, c'est probablement Ramos, Badé et à droite, évidemment, Jesús Navas, le plus vieux passeur avec la sélection, le vétéran. Et puis en gardien, Nyland, parce que voilà, là, on n'a pas autre chose. Donc je pense que ça sera à peu près ça, cette compo. Est-ce que Alonso va tenter un 3-5-2, c'est-à-dire avoir Pedrosa et. Plutôt, pardon, un 3, 3, 5, je sais pas trop, non, 5, 4, 1, mais bon, c'est un peu compliqué, donc je pense pas, je pense qu'il va rester sur un 4-3-3, assez classique, même si, voilà, je ne sais pas du tout quel est son système préférentiel.
Bon, écoute,
J'ai pas l'impression que ce soit un
personne n'a des
dogmatique.
boules de
En plus,
cristal. Personne n'a de boule de cristal, mais tu me donnes de très bonnes pistes. Je pense que je peux repasser la main maintenant à JB, justement. Et on n'oublie pas le réfé, même si on est un peu pris par le temps. JB, comment est-ce que tu vois cette rencontre? Est-ce qu'il y a vraiment un axe dans ce match sur lequel ça pourrait basculer? Est-ce qu'il y a un joueur qui, pour toi, peut faire la différence?
Alors, bien évidemment que je pourrais m'acheter Jude Bellingham, mais je pense que c'est pas drôle. Il faudrait que je trouve quelqu'un d'autre. Il y a un retour qu'il faudrait aussi mentionner, que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure dans les retours de blessures. C'est celui de David Alaba, donc il y a une blessure après une longue convalescence. Il sera bien disponible pour ce match contre le Sevilla. Mais pour ce match-là, je pense qu'on a un joueur qui sera un petit peu facteur X, c'est peut-être Rossellou. Je pense que Rossellou commencera sur le banc, mais je pense que son jeu aérien, justement, est une chose qui pourra faire du mal à Séville. Donc je pense que si on a un match compliqué que le Real, entre guillemets, a du mal à marquer le but qui fera la différence, je pense que Rossellou est totalement incapable de le marquer par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Voilà, mais sinon, si vous demandez à un joueur titulaire, je pense que Fede Valverde, qui est sur une forme assez intéressante, même très intéressante, on a encore vu contre le Brésil, pour ceux qui ont décidé de veiller pour le Brésil-Uruguay cette semaine, on a vu que Valverde est vraiment à un niveau de jeu très intéressant, donc je pense que Valverde pourrait justement être ce facteur X qui fera beaucoup de bien au Real Madrid.
Ok, ben voilà, je pense que c'est un bon avis sur ce match, avec pourquoi pas, justement, comme tu dis, Rossellou, là, un peu en facteur X. C'est vrai qu'il a, ben, il en a la tête et le profil quand on connaît un peu les carences de ce Sevilla en ce début de saison. Toi, Guillaume, justement, qu'est-ce que tu vois comme rencontre?
Alors, en général, Ramon Sanchez Pizjuan, les matchs contre Real Madrid sont un petit peu plus, on va dire, équilibrés, dans le sens où on fait meilleure figure que quand on est au Bernabéu, clairement. Les statistiques ne sont pas du tout les mêmes. Cependant, là, dernièrement, j'imagine pas quand même qu'on puisse aller faire quelque chose sur ce résultat. Surtout, voilà, encore une fois, avec un nouvel entraîneur, toujours un effectif que, quand même compliqué, puisqu'on reste quand même sur des bases d'une équipe qui a 3 ans maintenant, 4 ans. Donc voilà, avec les années qui suivent, quoi, les années qui passent, c'est compliqué. Je pense pas. Sur ce match, je pense pas qu'on va, on va faire un peu un match un peu comme le Barça, à savoir que je pense pas qu'on va prendre d'ol. Je pense pas qu'on va perdre beaucoup. Je pense qu'on peut aller peut-être chercher chercher un résultat positif. Pour moi, ce que j'appelle positif, c'est au moins peut-être un nul. En fonction des circonstances, à savoir comment se déroule le match. JB parlait peut-être de rentrée de Rossellou. Est-ce qu'ils vont faire l'inverse? Je n'ai pas l'impression que ce Séville-là a une tendance à bouger beaucoup en première mi-temps. Et donc, c'est un peu ça qui me dérange. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette volonté peut-être de mettre l'impact directement. Peut-être que c'est là où Real Madrid peut avoir des difficultés contre d'autres équipes, c'est-à-dire des débuts de matchs compliqués. Or, Séville met rarement d'intensité dans ses matchs, dans première mi-temps, donc c'est quand même compliqué dans ce cas. Mais au moins, je pense que l'équipe est quand même meilleure qu'il y a en tout début de saison, de par les recrues qui semblent s'intégrer dans le groupe titulaire. Donc on sait que Enesiri, s'il y a des centres, ça va être la valeur plus. Je dis bien s'il y a des centres, parce que encore une fois, c'est un des meilleurs joueurs de tête, même si par contre, c'est pas tout à fait le même niveau. Donc voilà, il va falloir mettre des centres et apporter un petit peu plus de soutien à lui, parce que le problème, c'est qu'il est souvent esselé aussi, donc il peut pas faire tout le temps des exploits, même si vraiment, encore une fois, son jeu de tête m'impressionne. Enfin, à chaque fois, on a l'impression qu'il a une détente, il pourrait casser la transversale avec la tête. C'est impressionnant ce qu'il fait et la détente qu'il peut avoir sur ses coups de tête. Donc, je vais dire que si on peut partir sur un résultat positif, mais... on dirait aller peut-être un nul, quoi. Je pense qu'un nul, ce serait une bonne performance pour ce Séville.
peut-être un nul, voilà, justement, tu espères une performance positive. On va te laisser un peu de
Positive.
temps avant de pourquoi pas, nous donner un podcast, de faire mûrir, un podcast, pardon, un pronostic, en faisant mûrir un peu ta réflexion. Juste avant de te passer la parole, Ruben, et que tu nous donnes ton avis un peu plus neutre, justement, sur cette rencontre. Voilà, JB est un peu pris par le temps. On n'a pas la chance d'avoir JB et Los Madridista pendant tout un podcast. La qualité, c'est comme ça.
Ah, je vais passer
ça
pour
se paye.
Voilà. Au moins, peut-être que j'évite la pique, justement. C'est comme ça. C'est l'avantage. Non, en tout cas, merci à toi d'être passé dans le podcast. Et puis, si tu avais juste un petit pronostic pour ton mot de la fin, ce serait super.
Bah écoute, un grand merci à vous pour l'invitation. Comme d'habitude, toujours un plaisir de pouvoir parler du réel, comme je le dis à chaque fois, et de parler avec vous. C'est toujours sympathique. Pour mon prono, je vois un match assez compliqué. Je pense qu'à la mi-temps, le Real et Séville seront dos à dos, à savoir un but partout. Et que Rossello rentrera, marquera le but du 2-1, et puis que le Real pliera le match ensuite. Donc 3-1 pour le Real Madrid. Voilà pour le pronostic. Donc une bonne semaine avant la claque que le Real Madrid mettra au FC Barcelone. Merci, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis à très bientôt. Et puis une nouvelle fois, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir.
Eh bien, écoute, super, super. On voit que ça se mouille déjà. Voilà, on verra si les paroles seront faciles ou pas à assumer. Donc voilà, rendez-vous déjà dans une semaine. C'est ça l'avantage. Voilà, on vous disait la qualité. Le type, il vous tease déjà un podcast exceptionnel pour les jours suivants. Donc voilà, vous comprenez bien évidemment qu'on ne puisse pas le garder tout un numéro. Ça tombe sous le sens. En tout cas, merci à toi vraiment, JB. Et puis, on verra.
Merci, JB.
Classico. Ruben sera aux manettes et on passera un très bon moment comme d'habitude. Justement, voilà, reprenons maintenant le fil de ce podcast. Ruben, comment est-ce que tu vois cette rencontre?
Non, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites, avec lesquelles je suis globalement en accord. C'est vrai que pour Séville, il y a quand même la difficulté, effectivement, dans un certain sens, de ne pas savoir, en tout cas nous, en tant qu'observateurs, de ne pas savoir trop à quoi s'attendre, dans le sens où effectivement, on aura plus ou moins les mêmes joueurs qui seront, je pense, sur le terrain, même si effectivement Guillaume a dit qu'il y avait relativement peu d'absents. Après, ce qui va être vraiment intéressant à voir, et là je vais pas forcément trop m'attarder longtemps parce qu'il en a parlé, mais ça va être surtout de découvrir un peu ce que Diego Alonso va nous proposer, non seulement évidemment par la tactique, par le jeu, mais aussi je pense par l'état d'esprit, parce que c'est ce dont on a vu cette équipe a besoin, peut-être d'un renouvellement d'état d'esprit, même si je crois que Mendy Libar a comme aussi apporté des bonnes choses sur ce plan. Je pense que voilà, Séville a besoin aussi de repartir plus ou moins de zéro, et mentalement l'équipe, en tout cas on a besoin, ça se sent et ça se ressent, ça se voit même sur le terrain. Donc je pense que on peut attendre voilà une équipe de Séville qui jouera peut-être un peu plus décomplexé que d'habitude. Après effectivement, en face c'est quand même le Real Madrid, tu l'as dit au début du podcast, qui par cette défaite contre l'Atlético dans le derby a tout gagné, qui en plus, même si certains matchs ont été moins réussis que d'autres, a quand même, je vais pas dire forcément le nom, parce que c'est quand même aussi la marque d'une certaine qualité, mais a quand même la faculté à réussir à s'en sortir dans, on a l'impression, quasiment tous les matchs, avec en particulier Bellingham, évidemment, qui est le joueur qu'on met beaucoup en avant. Rossello aussi, on en a parlé, qui, pareil, surtout encore plus à domicile, marque à chaque rencontre, mais à voir du coup s'il est capable de faire aussi de prolonger ses performances du côté de Séville. Donc voilà, moi je m'attends à Séville qui joue peut-être avec un peu moins de pression que d'habitude, en se disant que voilà, certes en face c'est Madrid, certes en face c'est un gros, mais quand même d'un côté il y a aussi la volonté de repartir sur des bases nouvelles, avec un nouvel entraîneur aussi qui en plus découvrir aussi une nouvelle expérience de son point de vue. Et en fait, quand même, un Real Madrid qui a son statut à confirmer, qui, en plus, on l'a beaucoup répété, on a beaucoup parlé déjà, il y a le Classico qui arrive, donc il y a aussi l'importance de pouvoir gagner ce match-là. Donc non, moi je m'attends vraiment à un Real Madrid qui, je pense, va quand même imposer du rythme, mais une équipe de Séville qui, peut-être en subissant aussi, va proposer de bonnes choses parce que, voilà, je l'ai dit, moi je pense qu'ils vont jouer avec un état d'esprit tout autre. Maintenant, voilà, reste à voir aussi si Madrid sera dans un grand jour ou pas, parce qu'on sait que cette équipe est capable parfois de complètement manquer sa première période et ensuite, en seconde période, en particulier dans la dernière demi-heure, dernier quart d'heure, d'être vraiment injouable. Donc non, moi je m'attends. Honnêtement, une rencontre assez ouverte en revanche. Et ouais, j'espère avec du beau contenu en tout cas. Mais il y a pas mal d'ingrédients en tout cas, qui sont réunis. En plus, avec les retrouvailles de Ramos avec Madrid, même si beaucoup en tout cas des joueurs qu'il a côtoyés à l'époque sont plus là aujourd'hui. Voilà. En tout cas, c'est un beau match qui se profile.
Ok, ben je pense que voilà, bon, JB réécoutera ça plus tard, mais voilà, les absents ont toujours tort. Un superbe avis pour nous présenter cette rencontre. On va terminer maintenant ce podcast avec les pronostics et je reviens vers toi, Guillaume. Alors est-ce que ça y est, tu peux nous donner un petit score?
Ah, je vais essayer d'être un peu positif. Je pense quand même, voilà, comme je disais, je pense que le match sera dans le contenu, match Séville contre Séville surtout. Donc encore une fois, au Sanchez Pesqueira, je pense qu'on montrera une autre figure que de temps en temps contre des équipes moins réputées, moins fortes. Donc je vais partir sur un nul. Je partirai sur un 2-2. Alors je pense que ça fait beaucoup de buts pour Séville mettre deux buts, mais je trouve quand même que c'est pas, en ce début de saison, c'est peut-être pas le souci offensivement, parce que malgré tout ils arrivent quand même à marquer. Voilà, c'est que là récemment c'est surtout défensivement où il y a quand même beaucoup d'erreurs individuelles, et quand je parle d'erreurs individuelles, c'est vraiment des grosses erreurs, c'est pas simplement des erreurs de placement, je veux dire d'une défense d'un collectif, d'une défense qui joue en collectif, non, là c'est vraiment des erreurs. Bon, il y a eu Badé par exemple qui vraiment sur le dernier match en Champions League, c'était vraiment raté. Il s'était un peu oublié aussi contre le Vallecano, contre le Rayo, voilà, où il était bien derrière tout le monde, donc permettant une contre-attaque beaucoup trop simple pour des joueurs professionnels, je pense. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dans ce sens-là, mais je pense qu'ils vont être beaucoup plus concentrés. Donc voilà, je pars sur un 2-2. Et bon, ben oui, peut-être que Ramos, voilà, sur un corner, je pense que ça fait un petit moment quand il n'a pas marqué. Déjà, il avait réussi à faire une passe décisive pour son collègue Goodell en Champions League. Donc peut-être que là sera le moment de débloquer le compteur but. Ouais. Et puis bon, je vois ou Luke Bakio ou Enesiri. Luke Bakio parce qu'il a une tendance à vraiment tenter. Beaucoup, donc je pense que ça peut le faire. Voilà, on va dire, on monte pas sur le nul 2-2.
Ok, donc 1-3 pour JB, 2-2 pour toi Guillaume. Ruben, est-ce que tu as un pronostic encore différent ou est-ce que tu te rapproches d'un des deux?
Je vais être plus ou moins, alors mathématiquement dans la sorte d'entre-deux, mais je vais me rapprocher un peu plus de JB sur l'issue avec un score de 1, oui, pardon, de 1-2, donc victoire du Real Madrid de buts à 1 sur la pelouse de Séville du coup. Voilà, bah, tout simplement parce que moi je vois une équipe de Séville, je lui ai dit qu'il propose de belles choses, mais je pense que voilà, le Real Madrid aura quand même cette intensité à toujours qui sera mise, et puis surtout cette plus que tout la volonté et la nécessité de gagner. Voilà, et puis quand on voit l'équipe, enfin en tout cas quand on voit cette équipe madrilène sur le début de saison, il y a quand même peu de choses qui les ont arrêtées en ce moment. Voilà, et puis ce seront quand même les débuts de Diego Alonso, donc moi même sans voir une victoire, je pense qu'on verra de belles choses. Après voilà, débuter contre le leader du championnat, comme c'est le Real Madrid, c'est loin d'être évident. Donc voilà, un beau visage de Séville, mais pas assez suffisant, je pense, pour faire la différence contre Madrid. Après voilà, restera juste à savoir effectivement si Sergio Ramos va marquer. C'est effectivement, on en parle à chaque fois qu'on va apporter sur le Real quasiment, avec justement NG, la dernière fois qu'il nous parlait de la loi des ex, avec le fait que voilà, on a parlé de Real Madrid pour un but par à chaque fois quasiment un de ses anciens joueurs. Donc voilà, pas de Mariano, donc tout repose un peu sur Ramos, qui d'ailleurs, de ce qu'on a pu entendre, ne devrait pas célébrer en cas de but ce samedi. Donc voilà, reste à voir en tout cas, mais courte victoire du courte, mais en tout cas précieuse victoire du Real Madrid à Séville ce samedi.
Écoute, moi je vais vous prendre de court. J'avais.
Je vais rajouter un point.
Vas-y, vas-y, je t'en prie.
Bah, non, juste, de toute façon, comme disait Ruben, je pense que l'intérêt de ce match pour Séville, c'est de recommencer tout simplement voilà, à mettre du contenu et ouais. Pouvoir pour les matchs suivants. Évidemment, c'est, malheureusement, ils tombent sur le gros match. Mais c'est vraiment pas le. Voilà, quand je dis un match nul, c'est un souhait. C'est plus un souhait que vraiment un prono objectif, peut-être. Mais voilà, c'est vraiment le but, c'est revoir, comme tu dis, du contenu et voir ce que Diego Alonso est capable de mettre en place pour les futurs matchs où là, notamment, il y a un derby qui arrive, derby sévillan, donc qui va pas tarder.
Aussi, ouais.
Donc c'est vraiment beaucoup plus important, évidemment, les prochains matchs que celui-là. En soi, moi, je fais presque exception maintenant des gros matchs pour Séville, voilà, contre du Barça ou Atlético ou Real, quoi. J'en fais presque l'impasse au niveau résultat. J'en attends presque rien à part montrer, voilà, quelque chose, montrer du contenu pour les autres matchs, pour les futurs matchs.
Mais écoute, voilà. je note une légère résignation, mais sache en tout cas que. J'avais déjà
c'est négatif en général.
Tout le monde un peu de cours lors du derby de Madrid. Et moi, je pense vraiment que le Sevilla peut faire quelque chose lors de cette rencontre, parce que nouvel entraîneur, parce que déclic, parce que des joueurs qui ont eu le temps de recharger les batteries. Alors oui, il y a eu des internationaux comme Ocampos et Acuña, mais après, il y a quand même pas mal de joueurs aussi qui ont passé une bonne trêve. Et je pense que le Sevilla, voilà, je crois aux belles histoires. Et Diego Alonso qui débarque sans référence, qui commence en affrontant le Real Madrid et Arsenal en Ligue des Champions, ben je le vois bien capable de surprendre son monde et pourquoi pas une victoire 2 buts à 1 ou 1 but à 0 du Sevilla ce samedi à 18h30. Donc, en tout cas, on verra bien comment ça va se passer. Mais peut-être que si jamais ça se passe là aussi, JB viendra m'envoyer un petit message relatif à ce prono, lui qui a déjà pris une petite semaine d'avance. Voilà, en tout cas, merci à vous deux d'avoir été à mes côtés pour ce podcast également, pour vos avis précieux. Merci Guillaume de venir nous parler haut et fort de ton
plaisir. Ça fait toujours plaisir.
Voilà, voilà.
Alors, c'est vraiment super de discuter. Voilà, peut-être à une prochaine. Voilà.
C'est pas peut-être, c'est évident, notamment pour le derby. Et on embrasse, peut-être qu'il nous écoute.
Je compte Fabrice. Je l'attends, Fabrice.
Voilà. le rendez-vous est pris, Et puis merci à toi, bien évidemment, Réfé, d'être venu pour nous donner un avis un peu plus neutre et peut-être un peu plus général sur ce match.
Bah avec grand plaisir, comme toujours, il y avait beaucoup d'éléments à évoquer, mais ouais, effectivement, c'était une belle affiche qui méritait d'être traitée, effectivement, et en plus qui arrive, voilà, dans un contexte de reprise avant les prochains grands matchs, que ce soit pour le Barça, pour Séville aussi, on commençait justement à en parler, qui arrive, donc ouais, non, beaucoup de choses à dire, et puis voilà, c'était un plaisir de pouvoir en parler avec JB qu'on remercie, puis avec toi du coup Guillaume aussi également qui a pu nous parler de ton équipe, et puis avec toi évidemment Sacha pour finir qui était à l'animation en tout cas, donc voilà, on espère que ce numéro aura plu à tout le monde, et puis si c'est le cas, il y a aussi, on rappelle, l'autre podcast entre le Barça et l'Atlético pour le match de ce dimanche, donc voilà, il y a de quoi faire pour ce week-end de reprise en Espagne.
Voilà, exactement. Mais vous comprenez pourquoi c'est le préfet. Il m'a enlevé les mots de la fin. Voilà. Je voulais rebasculer sur l'autre podcast. Mais non, c'est super. Merci à vous et surtout, bon match.